RTL Soir.
On refait le monde, Marc-Olivier Fogiel.
19h19 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec le président du think tank libéral, Génération Libre. Bonsoir Gaspard Koenig.
Bonsoir.
Avec le conseiller en communication Philippe Bailly. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Marco.
L'éditorialiste à l'Humanité, Claude Cabanne. Bonsoir
Monsieur Cabanne. Bonsoir Marc-Olivier Fogiel.
L'éditorialiste Figaro. Bonsoir Yvan Rioufol.
Bonsoir.
C'est un véritable serpent de mer. François Hollande a donc annoncé le prochain dépôt d'un projet de loi constitutionnel permettant la ratification de la charte européenne sur les langues régionales. Un projet de loi qui va nécessiter la réunion, vous le savez donc, du Congrès à Versailles pour modifier la Constitution, rien de là. Alors faut-il ratifier cette charte et modifier la Constitution pour ça? Est-ce que ce n'est pas démesuré? Vous avez entendu tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon qualifier de nouvelle agression contre l'unité et l'indivisibilité de la République, ce projet de François Hollande. Pour vous, sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret.
Blablabla, opala, néoquette possoub, rétriste et haut, écrit Bouton Bretagne sur le sujet. Alors, je ne sais pas du tout ce que je viens de vous lire. J'espère que ce ne sont pas des insultes. Si quelqu'un parle breton, qu'il n'hésite pas à appeler RTL. Plus sérieusement, c'est une surprise déjà, mais beaucoup auraient aimé être consultés, comme Mike qui lance Congrès égale petits arrangements entre amis, on veut un référendum. Jean-Luc Mélenchon, vous le disiez, parle d'agression. Il écrit sur son blog « La liste des dialectes reconnus va faire l'objet d'un choix arbitraire entre les langues parlées en France, mais aussi à l'intérieur de ces langues, qui comportent souvent des variantes fondamentales. Oui, il faudrait pas confondre langue de bois et patois de village », confirme Jean-Yves. C'est une politique de dispersion du tissu national, un repli identitaire. La République, ce n'est pas cela, soupire Serge. Mais non, ça doit pas être optionnel. Il ne faut surtout pas laisser les cultures locales s'éteindre, rétorque Alexandre. Question, demande Mickaël, en quoi le cadre juridique actuel empêche la pratique ou la mise en valeur du patrimoine linguistique régional? Et il n'y a pas plus urgent, ajoute Mika, modifier la constitution pour que chacun parle sa langue? C'est tout panneau, bah oui, ça va ressouder les gens, ça va faciliter la compréhension mutuelle. On est déjà tellement ploucre, chéri Bernard. Vous préférez que les enfants parlent l'occitan plutôt que l'anglais? Les seules langues, enfin, que Laurent aurait inscrites dans la Constitution sont le latin et le grec ancien. Mais pas de chance, dit-il, ce ne sont pas des langues régionales.
Allez, Gaspard Koenig, on va modifier la Constitution pour pouvoir donc inscrire ces langues régionales. Vous saluez l'initiative de François Hollande?
Bah, pas du tout. D'abord, j'en ai marre de ces initiatives toutes les semaines. Il y a une panthéonisation, les langues régionales, et tout ça nous empêche évidemment de poser les vrais problèmes qui sont les 100% de dette sur PIB, l'État banqueroute, les 25% de chômage de jeunes.
Appelez presque une diversion, mais sur le fond d'abord.
Sur le fond, mon nom c'est Koenig, donc mes arrière-grands-parents étaient alsaciens, et comme beaucoup d'Alsaciens, ils ont émigré en Normandie en 1870. Et à l'époque, les langues régionales, c'était un véritable obstacle. C'est-à-dire que vous mettez plusieurs générations pour être assimilées. Et la disparition des langues régionales, ou du moins l'uniformisation via le français, était une œuvre révolutionnaire. Je retrouvais ce petit passage du rapport de l'époque, de l'abbé Grégoire, qui disait qu'il fallait extirper cette diversité d'idiomes grossiers qui prolongent l'enfance de la raison et la vieillesse des préjugés. Alors, j'irai peut-être pas jusque-là, mais si vous voulez, les langues régionales quand même recréent des communautarismes, des féodalités, et à la rigueur, qu'on parle les langues régionales, ça arrive déjà, mais qu'on les impose de manière bureaucratique risque de poser énormément de problèmes et de recréer des divisions.
Alors, pour débattre avec nous, le député régionaliste Nanor Carté du Morbihan, co-président du groupe d'études sur les langues régionales, Paul Molac. Bonsoir, monsieur Molac.
Bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous. J'imagine que ça vous a fait plaisir d'entendre Gaspard Koenig nous expliquer donc que votre combat est un combat d'arrière-garde.
Oh oui, enfin on a l'habitude, hein. C'est le mépris habituel, donc ça ne nous fait ni chaud ni froid. Mais il faudrait, je lui conseillerais simplement de quitter un peu Paris et puis d'aller voir les régions périphériques comme ça, et peut-être que ça lui permettrait de s'ouvrir un petit peu.
C'est un peu facile, non, quand même, comme
Philippe
opposition.
Bailly, Philippe Bailly vous répond.
Expliquer qu'être contre cette réforme, c'est forcément guidé par un esprit parisien. Est-ce que c'est pas un peu facile?
Ah mais. Quelle société on veut? Alors on nous parle de...
Écoutez, on a un problème, pas de langue, mais de liaison. Donc on a bien compris où vous situez, Philippe Bailly, dans le débat, mais vous allez pouvoir réintervenir. Et vous, Yvan Rioufol,
je vais poursuivre la démonstration de l'interlocuteur, que j'approuve, moi.
Du boulot, Claude.
Que j'approuve dans la mesure où, effectivement, je pense que, d'abord, ces langues régionales-là sont des éléments de patrimoine aussi précieux que le sont des éléments d'architecture, des coutumes, des œuvres d'art. Donc il faut naturellement préserver ce qui reste d'un souvenir, que ce qui reste de racines. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a aussi ce besoin d'enracinement qui traverse les populations, et singulièrement c'est vrai dans les provinces, mais il faut écouter pour cela les provinces. J'imagine c'est ce que voulait dire ce monsieur.
On va le reprendre en ligne dans un instant.
Il ne faut naturellement pas entraver ce besoin-là, qui est un besoin naturel. Simplement, il y a en effet, et là je rejoins Gaspard dans sa démonstration, il y a un risque aujourd'hui à constitutionnaliser, c'est-à-dire à institutionnaliser ces langues régionales qui doivent demeurer, à mon sens, d'ailleurs elles demeurent, personne n'empêche personne d'apprendre le breton, mais simplement de faire venir aujourd'hui ce sujet-là, d'abord qu'il n'a rien d'urgent, alors même que nous heurtons à des communautarismes, à des repliements, voire même aujourd'hui, et même de la part d'Alain Juppé, à une remise en cause du processus d'assimilation à la communauté nationale, voire donc, si on poursuit les lignes, à une possibilité de rejeter le français comme étant une langue unitaire et majoritaire qui est constituée par l'article 2 de la Constitution, il y a là un risque que je trouve inutile à faire courir, car cela ouvre naturellement des velléités d'indépendance linguistique à beaucoup de minorités, pas simplement des Bretons. Et donc il faut faire, je pense au Dom-Tom ou à d'autres...
Philippe.
Alléluia, parce que je suis d'accord avec Yves Rouffol, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est pour les fonctionnaires du Parlement et c'est pour les restaurants de Versailles, parce qu'une réunion du Congrès, ça veut dire déplacer des centaines de fonctionnaires et de parlementaires pour une journée. Ça fait donc des primes à payer aux fonctionnaires et ça fait travailler les cafés-restaurants qui nourrissent les journalistes qui couvrent les débats. Bref, pour revenir à plus sérieux, c'est typiquement les grands débats politiciens dans lesquels on brasse des grandes idées, des grandes notions, dans lesquelles on se laisse aller. C'est typiquement du débat mélenchoniste. On sort des grands mots et à la fin, ça sert à rien. Et c'est en plus paradoxal parce qu'on vient de voter en France une loi de réorganisation du découpage du territoire pour créer des grandes régions en se disant qu'avec effectivement nos 23 petites régions, on n'avait pas la taille critique, etc. Et là, quand même, on va vers le réémiettement. Et puis juste un mot, enfin, du pur bon sens. Soit ça ne change rien, ce que disent certains, ça ne changera rien dans la pratique. Alors pourquoi s'embarrasser, pourquoi le faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres urgences? Soit ça change, ça oblige à traduire dans les langues locales les documents administratifs, les panneaux indicateurs à l'entrée des communes. Enfin bref, ça complique tout.
Ça existe déjà tout ça.
Oui, c'est possible aujourd'hui, mais soit ça devient une obligation, donc ça crée des coûts pour les collectivités locales.
Alors là-dessus, Paul Molac, vous êtes toujours en ligne avec nous. Est-ce que vous souhaitez qu'on en aille jusqu'à là, que les panneaux soient écrits en deux langues, que les documents administratifs également? Non, mais que ce soit une obligation.
Alors, d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que la charte européenne, ce n'est pas une obligation. Ce sont des possibilités, d'une part. Mm-hmm. D'autre part, si on est obligé de changer la Constitution, c'est bien parce que le Conseil constitutionnel a mis la barre à cette hauteur-là. Mm-hmm. Il aurait très bien pu ne pas la mettre à cette hauteur-là. Donc c'est lui qui nous oblige effectivement à faire tout ce tintouin. Première chose. Deuxième chose, vous confondez visiblement langue et citoyenneté. C'est-à-dire que pour vous, à partir du moment où on parle français, on est donc citoyen français, et on comprend toute l'histoire de la genèse politique française, et à partir du moment où on parle une autre langue, ce n'est pas le cas. Donc c'est totalement, à mon sens... C'est totalement idiot. Vous ne pouvez pas, le fait de parler une langue régionale ou de parler l'anglais, etc. Je parle l'anglais, ça ne fait pas de moi un citoyen britannique. Donc vous êtes en train de lier les choses. Et vous êtes en train de lier aussi le fait régional par rapport aux langues. Mais je vous rappelle quand même que le Pays basque, la langue basque, c'est simplement un demi-département français. Donc ça n'a rien à voir par rapport à la grande région Aquitaine, par exemple, d'aujourd'hui, et encore moins à celle de demain.
Claude Cabanne vous répond. Claude Cabanne vous répond, on a bien entendu votre argument.
Oui, mais précisément la langue basque, sur les panneaux, sur les autoroutes et les routes du Pays basque, c'est dans les deux langues, en français et en basque. Mais
en
pourquoi
Bretagne
pas
aussi.
Mais pourquoi pas moi, ce que je trouve, c'est que ça m'évoque tout ça, Gardaremlou Larzac. C'est-à-dire, il y a, dans les années 70, une sorte de planète morte, quelque chose qui a disparu, l'étoile est morte et il nous revient cette lumière. Alors, dans un choc constitutionnel, réunir le Parlement, ce qui est solennel, ce qui est grave pour les langues régionales. Moi, je suis pour qu'elles vivent, les langues régionales.
Ah oui,
qu'elles ne sont pas mortes, qu'elles vivent tranquillement. Et mon souci, c'est quand même la langue française, dont on dit qu'elle se perd, elle se liquéfie, elle s'amenuise. Et donc, la langue française, c'est la maison de l'être, disait Heidegger, le grand philosophe. La langue est la maison de lettres. Et donc, je suis attaché maintenant au fait qu'on défende vraiment la langue française et dans aucun esprit nationaliste ou je ne sais lequel. Mmh.
On reprend ce débat dans un instant.
Roland Garros 2015, en direct sur RTL.
On retrouve Jean-Michel Rascol, porte d'Auteuil. Alors, Serena Williams ou Timea Baksinski pour la finale femme?
Serena Williams qui peut prétendre désormais un troisième titre à Roland Garros. Elle a gagné en 3-7, 6-0 au troisième devant Mademoiselle Baczynski, effectivement. Mais son attitude entre les points était assez étrange. Elle était complètement ailleurs. On vient d'apprendre qu'elle est légèrement grippée. Mais le score est assez sec dans le troisième set pour montrer que tout son caractère raquette en main est bien là. La finale opposera Serena Williams à Mademoiselle Safarova.
Merci Jean-Michel.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
Et on refait le monde donc avec Yvan Rioufol, Claude Cabanne, Philippe Bailly, Gaspard Koenig. On continue notre débat sur les langues régionales. Claude Cabanne, vous disiez donc avant la publicité, ça ne doit pas passer par un changement de constitution.
Oui, en effet. C'est-à-dire, je ne voudrais pas passer pour quelqu'un qui veut uniformiser le pays, ses habitudes, ses mots, sa langue, son vocabulaire. Au contraire, la diversité est un atout absolument majeur. Mais en même temps, il y a une sorte d'arbre commun, et ça s'appelle le français. Et le français est malmené, il est maltraité.
Mais vous ne pouvez pas dire ce que vous avez dit, que les langues régionales seraient un astre mort, parce que ce n'est pas vrai. C'est ça, que toute la vie, il y a une vivacité, une vitalité dans la langue régionale, dans les régions, d'abord tout simplement dans les régions, qui sont représentées notamment par les langues régionales, qui renaissent même parfois. C'est ça qui est très intéressant, c'est que vous avez parfois des langues régionales qui renaissent, mais simplement, et donc il faut encourager, parce qu'il y a une remettre pas en cause l'unité de la République, naturellement, c'est simplement une quête identitaire qui est tout à fait respectable, mais simplement, en effet, mais là je vais me répéter, il faut faire attention à ne pas faire le jeu du communautarisme, qui est le nouveau, qui est un nouvel élément qui n'apparaissait pas auparavant quand on parlait des langues régionales, mais qui aujourd'hui s'impose dans le débat public, et il ne faudrait pas l'alimenter, bien sûr, par des mesures trop naïves,
Pardonnez-moi, Yvan, mais ici, est-ce qu'il faut passer pour ça par
la constitution?
Une procédure aussi solennelle que la réunion.
On ne parle pas des langues régionales ici, on parle de la charte des langues régionales. Oui. Il faut quand même savoir ce qu'il y a dans cette charte. Par exemple, veiller à ce que les autorités administratives utilisent les langues régionales ou minoritaires, créer des stations de radio, veiller à ce qu'elles soient utilisées dans les services publics. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va traduire le code du travail en basque et en breton. Vous imaginez,
non, c'est déjà ça. Ça veut dire qu'il faut donner sa place. Ça,
je vous vois attentif au code du travail.
Le code du travail est encore protégé par le fait que la langue française soit une langue nationale et prioritaire par la Constitution. C'est l'article 2.
Allez, on change de sujet dans un instant, si vous voulez bien. La grande famille des socialistes qui se retrouve au congrès du PS à Poitiers. Mais au fait, ces gens-là sont-ils toujours socialistes?
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier.
Et à 19h38, on refait le monde ce soir avec Gaspard Koenig, Yvan Rioufol, Claude Cabanne et Philippe Bailly. Vous avez vu la une de l'Obs de cette semaine. François Hollande a fublé des fameuses lunettes de soleil bling-bling de Nicolas Sarkozy. Et ce titre, le PS est-il de droite? Pour Michel Rocard, interrogé par l'hebdomadaire, la tragédie des socialistes, c'est qu'ils ne savent plus comment l'être. Alors que s'ouvre demain le congrès du parti à Poitiers, on se pose donc cette question ce soir. Le PS est-il encore de gauche sur les réseaux sociaux, Benoît?
Peu de commentaires gentils, hein. C'est un parti de gens gauche, concède Jean-Louis, mais est-ce qu'il est encore à gauche? Plutôt non. Déjà pour Jean-Christophe Cambadélis, Emmanuel Macron n'est pas socialiste. C'est pour cent visible, non? Il est doté d'intelligence, ricane Gourdan. Et il n'y a pas que lui. On ne dit plus socialiste, on dit je sais pas où j'habite, Rai Hall. Aucun membre de ce gouvernement n'est socialiste, à part peut-être Taubira, affirme Cargo. Aucun n'est socialiste. Du moment qu'on soutient l'homme à lunettes, on est libéral, assure Philippe. La gauche en miettes, le PS coupé en deux, no comment, tweet Benoît Hamon. Roland essaye de comprendre les sondages. 46% des Français trouvent que le PS n'est pas assez à gauche, mais 60% des Français s'apprêtent à voter à droite. Vous voulez mon avis? Ça fait longtemps que le PS n'est plus de gauche. Si vous ne me croyez pas, demandez aux chômeurs, écrit Brahms. Est-ce qu'on va arrêter de parler de courant de gauche ou de droite et s'attaquer aux vrais problèmes du pays, s'énerve Ken. C'est le PS qui aurait dû changer de nom, pas l'UMP. Il y a usurpation d'identité en parlant de socialiste, conclut Sophie.
Claude Cabanne, oui. Donc ce parti socialiste, fait partie de votre famille?
C'est un parti de gauche par sa fondation, par son origine,
ça, évidemment.
Par son histoire, par son vocabulaire, par sa manière d'être toujours. Mais là, tout d'un coup, il y a une mutation très, très profonde qui s'est manifestée au cours de la conférence de presse de François Hollande en janvier 2014. Et la figure centrale de cette mutation social-libérale, comme on dit, c'est Monsieur Macron. Monsieur Macron,
et quelques autres.
Je voudrais vous rappeler, par exemple, que Manuel Valls, à plusieurs reprises, a indiqué qu'il préférait Clémenceau à Jaurès. Pour un homme de gauche, c'est un peu paradoxal. Et par ailleurs, il a indiqué, je crois, une ou deux fois, y compris dans le Nouvel Observateur, qu'il fallait en finir peut-être avec le côté obsolète de ce mot socialiste, et il fallait devenir peut-être une formation démocrate, une formation démocrate. Ce qui nous ferait un mot tandem, démocrate contre républicain. Voilà.
Ça mérite d'être clair.
Mais Valls avait raison quand il voulait débaptiser le Parti Socialiste de son nom de socialiste, parce que le socialisme est mort, le socialisme n'a plus de doctrine. On le voit bien, il voit bien que le Parti Socialiste n'a plus aucune réponse à tout ce qui lui arrive. Alors l'école a été minée par l'égalitarisme qu'a promu ce socialisme-là, l'économie est épuisée par l'étatisme qu'a promu quand même, avec l'aval de la droite, ce socialisme-là. La société est fracturée par... Le communautarisme qui a été promu par le différentialisme de ce socialisme-là, l'antiracisme, n'en parlons pas. Donc on voit bien que tout s'effondre à cause de cette idéologie qui est devenue obsolète. Et donc le Parti Socialiste, en effet, il est envahi de ses fantômes, il est envahi de ses signes qu'il essaie de faire ressusciter. C'est Hollande au Panthéon, c'est Hollande chez Fralib, etc. On essaye de faire comprendre encore que le Parti Socialiste existe à travers ces petits signes-là, mais... Au bout du compte, il n'y a plus ni socialisme, d'ailleurs, ni de droite. Et je crois que le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de fracture entre la droite et la gauche. La fracture est ailleurs. Elle est à chercher entre, disons, les souverainistes et les...
Voilà, les libéraux.
Et les
libéraux.
Non, pas les libéraux, et les universalistes. Finkielkraut a une bonne définition. Je crois qu'il parlait une fracture entre le parti de l'autre et le parti du sursaut. Voilà, c'est un petit peu ça. Vous avez dans le parti du sursaut, vous avez des gens de gauche, des gens de droite. Le parti de l'autre, vous avez des gens de gauche, des gens de droite. Et le libéralisme n'est pas non plus une fracture.
Il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Est-ce que vous trouvez que PS et Républicain aujourd'hui, c'est bonnet blanc et blanc bonnet
entre Juppé et Valls, dites-moi la différence.
Personnellement pas, et je vais rebondir sur un mot de Cadi Ivan, sur les petits signes, la politique ne serait plus que des petits signes. Mais la politique, c'est souvent et beaucoup des signes, et sans doute plus encore aujourd'hui qu'autrefois, parce que les leviers dans un monde ouvert, globalisé, dans lesquels les masses financières...
Archifaux.
Merci, vous me répondrez plus tard. Dans lequel, encore une fois, les gouvernements ont de moins en moins de capacités objectives à gouverner l'économie. Il reste des signes.
Oui,
les signes qui indiquent aussi des priorités, qui donnent des directions aux entrepreneurs, aux salariés, etc. Ça, c'est sur le plan économique. Et puis, il reste des marqueurs sociétaux, par ailleurs. C'est la gauche, d'aujourd'hui. C'est les socialistes d'aujourd'hui qui auront fait le mariage pour tous, par exemple. Je ne sais pas s'il y aura d'autres réformes, encore une fois, à forte charge symbolique pendant pendant ce quinquennat. En tout cas, c'en est une. Et puis, pour finir par là, je trouve que c'est juste paradoxal et amusant que ce soit Rocard aujourd'hui qui donne des leçons de socialisme aux socialistes, quand on sait qu'il a passé toute sa carrière au PS à être soupçonné de droitisme, etc.
Qu'est-ce que vous trouviez faux, Gaspard Koenig, dans la démonstration?
Non, mais c'est ce mythe comme quoi le pouvoir politique n'a plus d'outils. Le pouvoir politique n'a plus d'outils parce qu'il les utilise pas ou qu'il les utilise mal. Mais il a toujours le monopole de la violence légitime. Et croyez-moi, l'outil réglementaire en France est très puissant et a contribué...
Ça commence à de la violence légitime.
L'État a toujours le monopole de la violence légitime, comme disait Weber. L'État est capable d'agir. D'ailleurs, il agit beaucoup trop et dans tous les domaines. Et il est parfaitement capable de nourrir des rentes comme il passe son temps à le faire aujourd'hui. Ensuite, il n'y a plus de socialisme tout simplement parce qu'il n'y a plus de socialistes. Je rappelle que quand même, les partis de gauche après-guerre, c'était 1 300 000 membres. 1 300 000 membres. Aujourd'hui, quand le PS fait son congrès, il y a 60 000 personnes qui votent. La moitié sont des élus locaux, un quart des retraités, le dernier quart, je ne sais pas où ils les trouvent. Il n'y a plus personne dans les partis politiques parce qu'effectivement, ces idéologies, qui étaient des idéologies qui dataient de l'âge industriel finalement, où elles avaient un sens à l'époque, sont mortes dans l'ère numérique. Et l'ère numérique va faire émerger de nouvelles philosophies politiques. Ça sera plus gauche et droite. Ça sera encore pour un certain temps dirigiste contre libéraux et après peut-être transhumaniste contre bioconservateurs. Mais ces vieilles fractures datent vraiment d'il y a 50 ans et effectivement n'ont plus sens aujourd'hui et les gens se sentent pour... Et c'est pour ça que tout devient confus.
Une des autres raisons pour lesquelles le Parti socialiste est démuni, c'est qu'il n'a pas analysé ce qui, à mon sens, est la crise essentielle et qui est une crise qui confirme, c'est-à-dire c'est la crise identitaire qui est, pour moi, largement supérieure à la crise économique et sociale. Et je pense que c'est une analyse que je soutiens depuis toujours ici, qui se confirme dans les faits, et on voit bien que le Parti socialiste, devant cette crise-là, est incapable d'apporter la moindre réponse.
C'est peut-être une critique du Parti socialiste, mais ça ne fait pas d'eux pour autant des gens qui ne sont plus à gauche.
Parce qu'ils ont ils ont été habités par une paresse intellectuelle, comme la droite d'ailleurs, qui depuis 30 ans sont restés sur leur confort des pensées toutes faites, si je voulais.
Ah bah donc ils sont encore peut-être trop socialistes à vos goûts, mais ils sont toujours socialistes.
Oui, ils sont socialistes d'un socialisme qui est défaillant.
Parce que il y a un phénomène quand même qui est caractéristique. Après avoir dit ce que j'ai dit, rappeler la fameuse phrase de Blum, nous serons les géants loyaux du capitalisme, rappeler quand même qu'il y a une forte opposition avec la droite, que la droite est vraiment à droite et qu'il y a là deux blocs de confrontation, pas sur tous les thèmes, mais sur des thèmes tout à fait essentiels qui conduisent la vie politique.
Une seule mesure que la gauche a prise aujourd'hui, que la droite n'aurait pas prise.
Il suffit d'évoquer la bataille sur les programmes.
Oh non, la droite l'aurait fait, le mariage pour tous.
Elle l'a fait.
Une bataille terrible. Et le mariage pour tous aussi, une bataille terrible.
C'est les conservateurs anglais de droite qui l'ont fait passer en Angleterre. La droite française aurait fait la même chose. Elle est aujourd'hui une hypocrisie.
Mais vous rigolez, vous avez suivi le débat ou pas? Vous étiez à l'étranger.
Non, j'ai suivi le débat, mais évidemment, ils sont positionnés comme d'habitude, comme ils sont d'accord sur tout. Du coup, l'opposition de façade devient encore plus violente.
Vous êtes
bien d'accord que le discours de la droite est un discours dur. Il suffit aujourd'hui d'ailleurs d'écouter M. Sarkozy qui évoque l'islam. C'est à nouveau un discours dur. C'est un discours de combat. C'est un discours de bataille électorale déjà. Oui, et donc, on ne peut pas dire que le Parti Socialiste a renoncé à sa propre bataille. Voilà.
Pour prolonger sur ce que dit Claude, c'est aujourd'hui un discours d'opposition. C'est un discours de fracture de la société. Et effectivement, je pense qu'il y a encore un élément de différenciation, c'est dans plutôt une idée de tendre la main ou plutôt une idée de fracturer et de... Voilà.
Ouais, ça, c'est très manichéen, cette histoire-là.
Allez, on change complètement de sujet, si vous voulez bien, on va pas vous mettre d'accord.
C'est les gentils et les méchants, c'est ça la fracture, oui, d'accord.
Et c'est un maître qui le dit, donc j'en suis flatté.
Allez, les brigades anti-incivilité, on vous en parle depuis ce matin sur RTL et on termine, on refait le monde avec ce thème dans un instant.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchiel.
Et à 19h50, on refait le monde avec Gaspard Koenig, Philippe Bailly, Claude Cabanne, Yvan Rioufol. Citadin incivil, attention, après Cannes, qui vient de mettre donc en place une brigade spéciale pour sanctionner les incivilités. Anne Hidalgo, la maire de Paris a annoncé y réfléchir pour sa ville ce matin, elle le disait sur RTL. Mieux punir les incivilités, 94% des personnes interrogées sur RTL.fr sont pour. Alors ces brigades, un pas de plus vers le flicage permanent ou une mesure utile sur les réseaux sociaux, Benoît?
Plutôt une bonne idée, en effet, selon les internautes, surtout de faire payer les propriétaires de chiens, souligne Darna. J'approuve, par contre, il va falloir songer à replanter des poubelles dans les lieux publics. Merci Vigipirate, écrit Adrien. Mais bien sûr, on ne trouve plus assez d'excuses pour créer des métiers publics et résoudre la crise du chômage, raille Alexis. Mais quand Neuilly annonce le 12 mai la création de sa propre brigade verte, Jack répond « Voilà une bonne chose, je vous félicite, merci de garder nos villes propres ». Non mais non, s'énerve à venir, on donne trop d'importance à la police, on ne verbalise pas des incivilités, on éduque, l'exemple doit venir d'en haut, c'est là le vide. Cusco pense au contraire que les gens sales, coupables d'incivilités, ne comprennent que le coup au porte-monnaie. Une brigade c'est combien d'hommes? Parce qu'à part un régiment de la Légion, je vois pas ce qui pourrait être efficace, ricane Hubert. Pat pense pour sa part qu'on risque d'accentuer la frontière entre deux mondes, celui où on est verbalisé pour un mégot et les quartiers où l'on jette même des frigos par la fenêtre. En fait, le plus étonnant, c'est qu'un message basique, le béaba du citoyen, apparaisse comme novateur, soupir Jean-David pour finir.
Philippe Bailly, vous faites partie des 94% des auteurs d'RTL qui sont pour ces brigades?
Eh bien, précisément pas. Je trouve terrifiant qu'on rajoute toujours des règles aux règles et qu'effectivement, on renonce à éduquer, qu'on crée encore un corps supplémentaire. Il y a la police nationale, la gendarmerie, ce qu'on appelle les ASVP, les agents de sécurité de la voie publique, si je m'abuse. Donc, ce que je comprends bien, on va créer encore un corps de plus pour régler des effectivement des incivilités. du quotidien qui peuvent se régler entre citoyens, qui devraient pouvoir se régler par l'éducation et pas toujours dans, encore une fois, l'obsession du gendarme. Juste un exemple, puisque Cannes s'est déjà déployé, 450 caméras à Cannes, et Cannes c'est quand même loin d'être Paris, on disait tout à l'heure, c'est 150 une caméra pour 150 habitants. Voilà. Et puis j'ai juste un mot d'étonnement. À Cannes, si vous urinez vous-même dans la rue, vous payez 180 euros, mais si c'est votre chien qui urine, vous payez 11 euros. J'en ai pas compris totalement la logique.
Si on urine sur le chien.
Ça on ne le dit pas. Et
c'est ta femme qui urine.
C'est une question sur l'équation budgétaire de tout ça. Est-ce que derrière tout ça, Anne Hidalgo n'est pas quand même aussi en train de se faire quelques recettes de poche?
Ça va pas franchement, parce que vous avez entendu ce matin le reportage sur RTL, les gens donnent un autre nom, puisqu'on ne peut pas vous obliger à vous donner le bon, et vous payez jamais vos amendes, hein, en fait. Hein, donc, puisque les agents ne peuvent pas demander votre carte d'identité. Donc,
donc on crée encore quelque chose qui sert à rien, comme la convention des langues régionales.
Gaspard.
Moi, je suis tout à fait pour vivre dans une ville où il y a des mégots par terre et un peu de crottes de chien, si ça peut nous éviter de vivre dans une société de surveillance. Et une ville toute propre, ce sera une ville où on sera tous morts, ça, c'est assez clair. Je rappelle quand même que le premier arrêté anti-crachat en France a été pris par Vichy en 1942. Ça correspond à une certaine vision de la société et de la nature humaine. Et comme vous disiez, je trouve effectivement les gens maintenant n'osent plus se critiquer. Et donc font appel à un tiers, à la police, pour régler des problèmes qui devraient absolument se régler entre nous. En revanche, il y a une deuxième chose qui est un peu différente dans les mesures annoncées par Anne Hidalgo, c'est moins la verbalisation que ce qu'on appelle le nudge, c'est-à-dire l'idée qu'on va inciter les gens, par exemple, mettre des cendriers pour que les gens puissent y mettre leur mégot, c'est autre chose.
C'est autre chose.
Mais ça, c'est de l'éducation, mettre des cendriers.
Claude. Moi, j'ai fait une distinction entre les communes où on jette les frigos par la fenêtre du quatrième étage.
C'est pas bien.
Peut-être parce que les frigos sont vides le 20 du mois, je ne sais pas. Et ceux où on jette des mégots comme à Neuilly, quoi. Donc, j'ai du mal à imaginer une mesure générale de brigade anti-civilité. Et je suis complètement d'accord avec Gérard. Ça devrait être l'affaire des citoyens eux-mêmes, notre affaire, quoi. De chaque heure, au jour le jour, chaque minute. Et on ne devrait pas avoir affaire.
Si ça marchait comme ça, Claude, ça irait bien, mais voyez bien que...
Je vois bien. Ça m'attriste, d'ailleurs. Ça me chagrine. Nous, ici, on est prêts, sans doute, à faire des choses dans ce sens. Mais il faut peut-être développer une pédagogie de ça. Et donc, ne pas céder, vous avez raison, à l'idée d'une société trop propre, trop nette.
D'ailleurs, je vous prie de fermer votre col de chemise.
Yvan Youfol.
Oui, j'ai pas de
qui a, lui, un premier bouton ouvert, en plus.
Oui, parce qu'il fait très chaud dans le studio, Marc-Olivier.
Je vous le confirme, Yvan.
Moi, les sociétés aseptisées me font peur, quoi qu'il arrive, aseptisées intellectuellement, aseptisées sanitairement. Mais j'invite à réfléchir tout de même à ce fait que la politique, maintenant, n'a tellement plus rien à dire, pour poursuivre le débat que nous avions précédemment, qu'elle se rue aujourd'hui sur les problèmes de santé, sur les problèmes sanitaires, qu'elle joue à l'état mama, à l'état nounou. Et que là, on apprend par exemple que demain, le gouvernement sonne le tocsin parce qu'il va y avoir des grosses chaleurs. Donc, il a fait comprendre qu'il venait au chevet de ceux qui auront soif et qui vont... Enfin bon, c'est complètement déliant.
Bah, je vous rappelle que la dernière fois qu'on l'a pas fait...
Oui, d'accord, mais enfin, on n'est pas encore dans la canicule. Et on voit bien que le gouvernement s'agite sur des choses annexes et qu'il laisse tomber les très grands problèmes. Je ne vais pas revenir sur ce truc-là. Et deuxième remarque que je voudrais faire tout de même, c'est qu'il y a encore quelques temps, la gauche aurait hurlé au fascisme si quelqu'un de gauche du Parti Socialiste avait dit qu'il entendait faire comme en fait un maire UMP... c'est-à-dire appliquer la sanction, appliquer la brutalité, la répression afin d'avoir une ville propre. Et aujourd'hui, la gauche applaudit. Et donc, il n'y a plus non plus, là, c'est voir une illustration du fait qu'il n'y a plus aucune différence entre la gauche et la droite et que la dépolitisation, c'est-à-dire le manque de structure doctrinale, la dépolitisation a envahi tous les débats. Et on se retrouve aujourd'hui à effectivement se chamailler, on ne se chamaillera pas d'ailleurs, sur ces petits sujets, sur les crottes de chiens et les pipis de chat, et qui ne m'intéressent pas. Et franchement, je trouve que c'est une sorte de déshonneur de la politique de vouloir gérer ainsi la vie des gens. Pour le reste, je n'ai rien pour les crottes de chiens. J'observe d'ailleurs que les gens ramassent maintenant les crottes de chiens.
Vous avez un chien ?
Non, je n'ai pas de chien. Non, non, mais j'observe que les gens ramassent maintenant les crottes de chiens comme ça ne se faisait pas.
Ah, c'est obligé maintenant. Hein,
oui, mais les gens le font, donc il n'y a pas de problème. Et donc les villes ne sont pas si sales que ça non plus.
Allez, merci à tous les quatre. Merci à Philippe Bailly, à Gaspard Koenig, à Claude Cabanne et à Yvan Youfol. Dans un instant, le flash de 20h avec Maxence Lambrec, Thomas et Sidonie. La curiosité est un vilain défaut. Donc, tout de suite après, bonsoir les amis.
Bonsoir à vous.
Bonsoir à tous. Salut Marco.
Salut. Au sommaire, Thomas et Sidonie.
Ah, vous n'avez pas de musique?
Ah non,
pas
de musique. Ah, non, non,
c'est quasiment le week-end, là, voyez.
De quoi vous parlez?
Les héros super-héros.
Les héros Marvel, tiens, par exemple. De
vous les connaissez?
Non, Captain c'est... America.
Bah oui, c'est Iron Man, Hulk, X-Men, Spider-Man, les Avengers. Thor. Et bah tout ça, c'est une même grande famille, une grande cosmogonie.
Ah oui,
un univers parallèle qu'on va vous raconter.
Très bien. Après le stage de 20h, mais on est impatients, en fait.
Bah, j'espère bien.
Comment vous les appelez? Comment vous les appelez?
Les super-héros Marvel.
Marvel, les super-héros Marvel. Très bien. On apprend plein de choses.
Avengers, par exemple.
On est un peu les rois du Coca-Cola, vous allez remarquer.
Allez, à tout à l'heure.